par rapport au gouvernement du monde. Parce que la fois dernière, je vous ai montré ce gouvernement du monde par les causes secondes et l'intervention directe de Dieu, création de l'âme. Je crois qu'il y a une distinction qu'il faut bien garder là. Alors, ceux qui refusent cela montrent évidemment le point de vue du hasard. Le monde n'est pas vraiment gouverné par des causes secondes, mais il y a le hasard. Le hasard qui provient des ratés. Comme c'est difficile de prévoir le temps, paraît-il. C'est une des choses les plus difficiles. Et quand on regarde, nous, simplement, ces passages extraordinaires, plus que les autres années encore, on passe du beau temps à un temps pluvieux, à un temps mauvais. C'est extrêmement difficile. Alors, on comprend très bien que on parle du hasard. Et le hasard, c'est justement ce qui n'a pas de finalité. Et quand je parle du monde gouverné par les causes secondes, il y a une finalité. Le monde physique n'a pas de finalité en lui-même. C'est du reste une des raisons pour lesquelles le monde physique ne peut pas être l'absolu. Il n'a pas de finalité propre. Il a une finalité partielle, particulière, et qui est du côté de la vie humaine. Le monde purement physique, le soleil, la lune, les étoiles, autant qu'on peut le savoir, un monde purement physique, a-t-il une finalité en lui-même ? Sa finalité, c'est pour la vie, extérieure à lui. Il n'a pas de finalité. La création d'un monde physique, purement physique, sans qu'il y ait la vie, n'a pas de finalité, donc ce serait absurde. Je crois que c'est très intéressant et très important de voir ça, parce que aujourd'hui, on a des sciences spécialisées. Bon, c'est à partir du XVIe siècle que commençait vraiment à avoir ces spécialisations, XIVe. Le XIVe siècle est un siècle anarchique, n'est-ce pas, au point de vue théologique. Et à partir de là, XVe, XVIe, a commencé les sciences spéciales, qui n'existait pas au début. Au début, la philosophie prenait tout. Parce qu'il y avait la finalité, il y avait l'homme. Et c'est ça qui intéressait. C'était l'homme. Tandis qu'on est tombé dans les spécialisations des sciences. La philosophie demeure, mais la philosophie demeure assez lointaine quand il s'agit du monde physique. Quand il s'agit des étoiles, quand il s'agit des océans, assez lointaine, la philosophie ne rappelle qu'une seule chose, pas de finalité dans le monde physique. Il y a une finalité immanente, si vous voulez, dans le monde physique, mais ce serait la beauté. Le monde physique, c'est pour la beauté. côté de la lumière. Mais il est finalisé par la vie. La lune, où il n'y a pas de vie, elle n'a pas de finalité en elle-même, si ce n'est d'être la lune. Elle a une finalité grâce au tout, étant donné qu'elle est toute relative au soleil, et qu'elle est en quelque sorte l'antithèse du soleil. Le monde physique, purement physique, serait inintelligible pour lui-même, c'est-à-dire il n'a pas de fin. Or, toutes ces sciences qui étudient des choses partielles du monde physique ne peuvent uniquement arriver à établir des lois sans finalité, parce qu'il n'y a pas de finalité. Et c'est toujours une très grave question. Pourquoi la finalité s'est-elle perdue ? C'est vrai, Auguste Comte, le maître positiviste français, considère que la recherche de la finalité, c'est pour les enfants. Ce n'est pas scientifique. Donc, c'est pas sérieux. Et remarquez que ce que dit Auguste Comte en grosses lettres, des quantités de gens le disent en petites lettres, hein. Qui ne considère que seule la science est sérieuse. La poésie, l'art. Non, c'est pas sérieux. C'est du beau passe-temps. Je suis peintre. Oui, vous n'avez que ça à faire. C'est très curieux, et c'est très important de voir ça. Et la philosophie, on n'en parle pas non plus. Alors, on devient positiviste. La science, elle ne recherche que les lois. Les lois, ce n'est pas la finalité. C'est le remplacement de la finalité. Les lois, c'est étudier la relation qui existe entre antécédents et conséquents. Si cette relation est nécessaire, alors on aura une loi. Mais elle est toujours particulière. Il ne peut pas y avoir une loi générale absolue. Alors c'est important, au point de vue philosophique, de comprendre d'où vient ce positivisme qui est général et qui écarte la causalité finale et qui fait qu'on ne cherche plus que les lois d'efficacité, les causes efficientes et les rapports d'antécédents et conséquents au point de vue formel. La loi. Et il n'y a plus de finalité. Alors, on voit que le hasard existe. Pourquoi le hasard ? Pour Aristote, le hasard existe à cause de la causalité matérielle. Notre monde physique est un monde matériel. Et la matière, on ne peut jamais la connaître parfaitement. Donc il y a toujours une source d'erreur, une source de choses qui ne peut pas aller. Ce qui fait du reste comprendre que notre monde physique, ne pouvant pas se connaître sans la matière, nécessairement le hasard est présent. Le hasard est la mauvaise fortune. et la bonne fortune, les choses qui arrivent par hasard, qu'on ne peut pas prévoir. La causalité matérielle fait que notre monde physique ne peut jamais avoir en lui-même sa propre fin. Il y a les lois. Alors ça, c'est un gros problème. Le passage de la recherche des causes à la loi. C'est un gros problème philosophique qui est intéressant, mais qui naît à partir de notre monde physique. Notre monde physique, à cause de la causalité matérielle, a des failles énormes. Et plus la cause matérielle prend d'importance, par exemple, je ne sais pas, l'étude des océans, l'étude des montagnes, l'étude des volcans, je ne peux avoir que des lois. La cause matérielle est tellement importante que je donne des lois, et les lois sont toujours particulières, à la différence de la recherche des principes, la recherche des causes. Alors là, il y a un problème énorme que nous devons toujours être très éveillés à ça. Vous voyez, la philosophie a commencé toute seule. C'est elle qui est première. C'est elle qui est plus fondamentale. Les sciences particulières, et sont très nombreuses les sciences particulières, se sont éveillées il n'y a pas si longtemps, comparativement à la philosophie. 14e, 15e siècle. Et on sait très bien le sort de ces sciences. Prenez Galilée. L'histoire de Galilée à ce moment-là est extrêmement intéressante, parce que c'est le conflit entre philosophie et science. Et quelqu'un qui se donnait aux sciences était condamnable parce qu'il ne voyait plus la finalité. Mais il ne pouvait pas la trouver parce qu'il regardait le monde physique où il y a constamment la cause matérielle qui arrête tout. Et les lois alors sont tout à fait partielles. Ut in pluribus, la plupart du temps, c'est ce qui arrive. C'était ce que Aristote disait pour tout le monde physique. La plupart du temps, ça arrive. Mais ça n'arrive pas toujours. Parce qu'il y a la cause matérielle. Je ne peux pas épuiser la cause matérielle. La cause matérielle, dans le monde physique, est capitale. Et il y a toujours des échecs, là. Donc, il y aura la séparation à un moment donné, entre la philosophie et les sciences. Ça, je crois qu'on doit tous comprendre ça, c'est très important. Comment les sciences se sont multipliées. Et les sciences, elles demandent de se multiplier. La philosophie est une. Dans la mesure où la philosophie demeure, la philosophie aristotélicienne, dans la mesure où elle demeure, elle est une. Les différentes parties de la philosophie, ben, tous sont ordonnés à la connaissance de l'homme. Tandis que les sciences particulières ont toutes, en elles-mêmes, leur autonomie. Et il n'y a plus de sagesse. La science particulière ne conduit pas à la sagesse. La philosophie conduit à la sagesse. C'est le conflit très grand qui existe entre la finalité qui n'existe que pour l'homme, pleinement. Quelle est la finalité de l'éléphant ? Il a une finalité que je lui attribue. Il n'en a pas, lui. Il vit. Et il meurt. Il engendre. Il a des petits. La nature récupère ça. La nature. Et la nature, c'est la cause formelle et matérielle. La cause finale, elle est à partir de la forme. Elle n'est pas directe. Vous n'avez pas de connaissance directe de la finalité dans le monde physique. Vous n'avez qu'à connaissance de la forme relativement à la matière et par la forme une certaine finalité. Mais une finalité qui risque toujours d'être arrêtée par la matière. Parce que le problème de la matière, c'est d'être cause du hasard, source du hasard. La matière n'a pas de fin. Elle est indéterminée. Elle est source de toute potentialité. Une potentialité radicale. Je crois ça alors très très important. Parce que si on ne fait pas la distinction entre le gouvernement de Dieu par rapport à notre monde physique. Notre monde physique implique le monde des étoiles, des planètes, des mers et de la terre. Le monde physique est ordonné au monde des vivants. Il n'y a pas de vie dans la Lune. Il n'y a pas de vie dans le Soleil. Il n'y a pas de vie dans les étoiles. La question qui reste toujours, point d'interrogation, n'y a-t-il que la Terre où il y a des vivants ? On peut se poser la question, on n'aura pas de réponse. Est-ce que Mars est habité ? N'est-ce pas ? Et alors ça revient toujours dans l'imagination des gens. Les soucoupes volantes étaient habitées des gens de Mars qui s'inquiétaient sur la Terre et qui se demandaient est-ce que sur la Terre il y a des gens habités, qui habitent. Bon, alors vous pouvez construire tous les romans possibles là-dessus. Mais ce qui était très curieux pour les soucoupes volantes, ça m'intéressait parce que c'est amusant. C'est une petite distraction intéressante. C'est qu'on ne parlait jamais du toucher. Personne n'a touché une soucoupe volante. Et on les voyait, on les entendait. Nous avions fait la bonne blague une fois avec le père Philippe Marie. On allait en Belgique, puis on a une panne d'essence, la nuit. Alors, on était en costume religieux, par le fait même d'une autre planète. Et puis, on a dit que nous sortions d'une soucoupe volante. Et ça a marché. L'imagination prend des tas de choses. Et c'est philosophiquement, c'est très intéressant parce que ça montre que le monde physique, avec les sciences qui se multiplient, on ne peut pas trouver de finalité directe. Il y a la cause formelle. Le monde physique est pour le monde des vivants. Ça, c'est le philosophe qui dit ça. Le savant ne peut pas le dire, puisqu'il voit les lois. Il n'y a pas de finalité dans les lois. Alors, le philosophe dit, le monde physique est pour le monde des vivants. Et le monde des vivants est pour l'homme. Alors, cette vision très ancienne, essai physique, le monde physique, le monde des vivants et le monde de l'esprit. Je crois ça capital lorsqu'il s'agit de réfléchir sur le gouvernement divin. Dieu gouverne le monde physique selon un ordre. Dieu n'est pas soumis aux lois. Les lois, c'est les hommes. Il n'y a pas de loi en Dieu. Il y a une question de sagesse. Dieu a créé, pas directement le monde physique. Il l'a créé par les causes secondes. Et des causalités matérielles et formelles, mais il n'y a pas de loi. Et au niveau philosophique, je comprends les lois comme quelque chose de particulier, mais qui ne sont pas universelles. Vous voyez, je vous ai dit une fois à Fribourg, on avait auprès de soi des savants physiciens, des chimistes, des astronomes aussi. Alors, j'avais fait un séminaire en dehors de l'université où j'avais posé la question, pouvons-nous philosophiquement, encore aujourd'hui, maintenir les quatre éléments, terre, eau, air, feu. Est-ce que les sciences modernes font que cette vision philosophique d'Aristote, cette vision philosophique d'Aristote des quatre éléments pour la philosophie de la nature, est-ce que c'est encore légitime? Pouvons-nous encore dire que philosophiquement, le monde physique s'explique en raison de ces quatre éléments? Oui, c'était une question critique, très intéressante. Parce qu'on était en face de la chimie, on était en face de la physique, on était en face de l'astronomie. Le feu, il n'y a pas beaucoup de science pour le feu. Alors, et la conclusion était que oui, pourquoi ? Parce que les quatre éléments reposent sur les sensibles propres. Et la science, elle regarde toujours les sensibles communs. Alors ça, je crois très important. C'est un peu extrinsèque à ce que je dis ici, à propos du gouvernement divin, quoique au fond, c'est ça qui me permet de dire que Dieu gouverne le monde autrement que les savants savent dans leur science. Et parce que Dieu a réalisé un monde physique, et dans ce monde physique, Dieu a créé des éléments sensibles. Les quatre éléments, terre, repose sur la distinction des sensibles propres. Regardez la manière dont Aristote établit ces éléments, c'est la sensibilité, les sensibles propres. Les sensibles propres sont les sensibles propres à chacun des sens. Les sensibles propres du toucher, les sensibles propres de l'œil, les sensibles propres de l'odorat, les sensibles propres de l'ouïe. Et la science, elle mesure. C'est les sensibles communs par la quantité. Alors, on était arrivé à cette conclusion intéressante, du moins, pour moi c'était très intéressant, et pour la philosophie c'est très intéressant, que notre monde physique et le monde des astres, pour Aristote, le monde des astres est divin, la quintessence. Nous ne pouvons plus dire ça, c'est sûr. Le monde des astres est matière comme nous, feu comme nous, et n'est pas différent d'une matière spéciale. Alors pour Aristote, il était différent de manière spéciale parce qu'il était éternel. Pour Aristote, le ciel est éternel. Il ne se modifie pas. Aujourd'hui, on parle de la mort des étoiles. Des étoiles qui ne donnent plus de lumière. Je ne sais pas trop pourquoi. Et c'est comme ça. Les astres qui disparaissent. Et ils ont la même matière que nous. Mais évidemment, l'équilibre est différent dans la Lune que sur la Terre. Parce que la Terre, sans doute, est seule à faire que le monde physique est ordonné aux vivants. Alors, ça c'est quand même très important. Le monde physique est ordonné aux vivants. Chez le vivant, indépendamment de l'homme, y a-t-il une finalité ? Est-ce que le crapaud a sa finalité ? Est-ce que l'araignée a sa finalité ? Vous savez, chez les stoïciens qui cherchaient la finalité de tout, alors ils disaient que la finalité des rats, c'était de venir réveiller les gens quand ils dormaient trop tard le matin. Donc c'était les gardiens et les gendarmes de l'humanité, les rats. Et c'était des gendarmes particulièrement dangereux. Alors ça, c'était le moment où on voulait donner une finalité à toute chose. Et on donnait toujours cette finalité par rapport à l'homme. Alors, est-ce que la vie qui apparaît à partir du monde physique, mais qui est autre chose que le monde physique, aujourd'hui, on est bien obligé de le dire. Pourquoi n'y a pas de vie sur la Lune ? C'était la grosse question. Aller sur la Lune, voir s'il y avait la vie. Et on a conclu que la vie n'existait pas dans la Lune. On pouvait le dire déjà d'avance, mais là, on l'a dit par le mode d'expérience. Il n'y a pas de vie dans le Soleil. Il n'y a pas de vie dans les étoiles. On se pose la question, peut-être dans les planètes. Pas d'interrogation. Mais toujours est-il que pour nous, il y a un passage du monde physique au monde vivant. Il y a des intermédiaires qui sont presque des vivants et qui ne sont pas des vivants, qui restent encore de la matière. Alors, d'où vient la vie ? Et comment le vivant est-il gouverné ? Ça, c'est une question vraiment philosophique et qui demeure. Parce que la science reconnaît bien la différence entre la matière vivante et non vivante. Le vivant demeure celui qui se meut. Celui qui se meut, c'est-à-dire celui qui a une victoire sur la matière. Le monde physique est dominé par la matière. Et c'est la matière qui le domine. C'est pour ça que le monde physique s'abîme. Toujours. Quand vous laissez des ruines, par exemple, et que vous les voyez 20 ans après, vous voyez que ça s'abîme. Le monde physique a sa solidité, mais il s'abîme. Le Parthénon s'abîme. La maison de Marie en Palestine, donc peu importe, s'abîme, ça s'effrite. Le monde physique est un monde qui s'abîme. Il ne vit pas. Le vivant, il a cette capacité de pouvoir recommencer sa vie chez le voisin. Puisque le vivant engendre. Le vivant parfait engendre. Et par là, il est victorieux du temps. Et il dépasse le temps. Alors, le vivant a-t-il une finalité? Il a une finalité immanente. C'est pas une véritable finalité, donc. Il engendre. Et les espèces durent bien qu'elles disparaissent. On m'a donné le chiffre une fois du nombre des espèces d'animaux qui disparaissaient tous les années. C'est formidable. La variété. Parce que le vivant physique est limité. Il y a le poids de la matière. Et le poids de la matière lutte contre la vie. Il y a une espèce d'opposition constante. Il n'y a pas de finalité extérieure, extrinsèque. Donc il n'y a pas de véritable finalité. Il faut attendre l'esprit pour trouver une véritable finalité. L'esprit seul peut aimer ce qui est autre que lui, celui qui est plus grand que lui, tandis que le vivant, comme vivant, demeure par sa finalité immanent à lui-même, immanent à sa détermination, à son espèce. Donc, ne connaît pas vraiment la finalité. Il la connaît en dépendance de sa détermination. Donc, il la connaît d'une façon médiate. La finalité immanente n'est pas une véritable finalité, autrement dit. C'est comme une image de la finalité. C'est comme un symbole de la finalité. Mais ce n'est pas une véritable finalité. La véritable finalité, c'est lorsque on est attiré par plus grand que soi. On est attiré par un bien extérieur, l'autre. Tandis que pour le vivant, comme vivant, l'autre, on le mange, on le dévore, on ne respecte pas. Il n'est pas finalité. très curieux, ça. Comme la vie est immanente. Oui, c'est l'immanence dans la vie. Alors, on voit bien que l'immanence de la vie, comme telle, pose un problème au point de vue philosophe. Si le monde physique reste philosophique par les quatre éléments, j'explique le monde physique par les quatre éléments, et les quatre éléments échappent à la science, parce que ce sont des sensibles propres. La vie, comme vie, échappe à la science. Non pas par la finalité, mais par son immanence. Le vivant engendre, il progrès. C'est sa finalité qui n'en est pas une. Engendrer n'est pas une véritable finalité. C'est de permettre que l'espèce continue. Donc, on n'atteint pas un bien extérieur. On garde un bien intérieur. Et ça explique comment le vivant a cette espèce d'appétit féroce de garder sa vie. L'égoïsme de la vie végétative, est affolant et est d'une force extraordinaire. Et ça explique comment dans le monde des vivants, c'est la violence qui domine le plus fort. La baleine mange les petits poissons, le requin les petits poissons. Et c'est normal. C'est la vie souterraine, ça. Et au point de vue vie végétative, c'est exactement ce qui se passe. C'est toujours le plus fort qui l'emporte, le plus vivant qui l'emporte. Et il n'y a pas de sortie de soi, il n'y a pas de dépassement de soi. C'est très important de comprendre cette espèce de force égoïste, très étonnante à la vie. Et que nous portons en nous, hein. Puisque nous portons en nous la vie végétative, nous portons en nous les quatre éléments. Il faut le dépassement de l'homme pour trouver la vraie finalité. Là, au point de vue du gouvernement divin, nous voyons qu'il y a gouvernement divin proprement dit et direct que pour l'homme. Pour le monde physique et le monde des vivants, de vie végétative, Dieu le gouverne par cette immanence des lois en respectant toujours cette espèce de force d'inertie que représente la matière et qui fait le hasard, qui fait les ratés, qui fait les imprévus. Ils sont imprévus pour nous, ils ne sont pas imprévus pour Dieu. Dieu connaît parfaitement toutes les potentialités de la matière, puisque c'est Dieu qui a fait la matière. Mais dans le monde physique et dans le monde animal, végétatif, la matière est donc ce qui est source de tous les imprévus, de toutes les ratées, de tous les hasards. Et cela est nécessaire, puisque la cause matérielle est source de tout cela. Alors on comprend très bien comment, à partir de là, il y a eu deux systèmes philosophiques. Ceux qui disent tout le monde physique demeure dans le hasard à cause de la matière. Et puis, ceux qui, au contraire, voient l'esprit comme dominant toute chose et voient l'homme dans sa relation directe avec l'être premier, le Créateur, qui reçoit de cet être premier le pouvoir de gouverner le monde physique. Vous voyez, au point de vue philosophique, je crois qu'il faut faire une très grosse différence entre le gouvernement de Dieu sur le monde physique et animal, ce gouvernement de Dieu respecte le hasard, respecte les ratés qui proviennent de la cause matérielle. Notre monde physique sera toujours un monde de hasard et avec des ratés qui proviennent de la matière. La matière est source du hasard. La matière est source de tous les manques. Et comme en nous, par notre corps, nous portons le monde physique, par notre vie, nous portons la vie animale, il y a, par rapport à nous, par rapport à l'homme, il y aura donc dans le gouvernement divin deux aspects. Point de vue philosophique, hein. Nous sommes et nous faisons partie du monde physique. Nous faisons partie du monde animal. Nous sommes donc, par notre corps, liés à la matière. Il y aura toujours, au point de vue physique, des choses imprévisibles. Notre matière, notre santé, si vous voulez, nous jouera toujours des tours pendables qu'on ne peut pas prévoir. Il y a en nous la matière. Nous faisons partie de ce monde physique pour ne pas nous en abstraire et nous séparer de ce monde physique. C'est ce qu'on dit en disant « L'homme est un petit cosmos. » Les stoïciens disaient ça. Donc c'est en petit le monde. Ce que je vois en grand dans le monde physique, il est en moi, dans mon corps. Et dans mon corps, je saisis ces éléments physiques, ces éléments de la vie. Non finalisé, porteur toujours du hasard. Et je porte en moi l'âme. Alors l'âme a sa finalité. Et par rapport à l'âme, alors nous retrouvons un gouvernement divin finalisé directement et propre à chacun. C'était ce qu'avaient très bien compris les stoïciens. Ils avaient saisi cela qu'il y a quelque chose en l'homme qui fait qu'il dépend directement de la cause première, qu'il dépend directement du Créateur. Tandis que vis-à-vis du monde physique et du monde animal, il y a des lois. Et je dis bien des lois qui respectent le point de vue de la cause matérielle et la cause matérielle qui fait toutes ces ratées, qui fait ce hasard, qui fait les imprévus, qui fait que je ne peux pas être sûr de ce qui arrivera. Nous portons en nous notre corps et donc un monde matériel que nous ne connaissons pas totalement. Il y aura toujours quelque chose qui nous échappera, qui n'échappe pas à Dieu, c'est sûr. Ça fait partie de... mais qui n'échappera. On maintiendra ce hasard, on maintiendra ces choses cassées et brisées.